milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Comme chaque vendredi, on parle éducation. Peut-on aujourd'hui apprendre avec un smartphone ou une tablette, un écran en tout cas, avec Internet et des sites déclinés en applications? On a l'impression désormais que tout est possible, à condition d'être très motivé, très organisé, très persévérant, très assidu. Et ces qualités humaines ne sont pas forcément données en paquet cadeau avec un smartphone. Alors appelez-nous les voisins pour nous faire part de vos expériences d'apprentissage, seuls ou à plusieurs virtuellement derrière les écrans, quels qu'ils soient. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71 et bien sûr aussi sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter. On va en discuter avec Arnaud Portanelli du site lingueo.com.
Bonjour, Emmanuel, bonjour à tous.
C'est un site d'apprentissage des langues, je dirais presque classique maintenant, hein, c'est ouais. De la conversation en ligne.
Oui, et puis ça fait 10 ans en fait maintenant, hein, c'est fou, mais à l'époque les MOOC, même l'expression MOOC n'existait pas et il y avait encore moins d'app. Mais oui, effectivement Lingueo a 10 ans, fait des cours en visio.
Voilà. Donc on peut avoir un prof d'anglais à New Delhi par exemple.
C'est le concept, hein. Ouais, ils sont plutôt aux États-Unis ou en Angleterre.
Déborah Elalouf est avec nous également, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes fondatrice de Tralalaire pour permettre aux enfants d'apprendre, ça peut être des maths comme du numérique d'ailleurs. Apprendre à coder notamment.
Ça peut être apprendre les matières de l'école et ça peut être aussi apprendre tout un tas de choses comme effectivement le numérique directement.
Et éventuellement aussi donner des conseils aux parents pour accompagner leurs enfants avec un écran, ça peut servir. Olivier Saint-Son sera au téléphone avec nous, il est responsable France du groupe Udemy qui commercialise des cours en ligne. C'est une gigantesque plateforme, on les appelle le Amazon du cours en ligne, supermarché du cours en ligne, plus de 40 000 cours en ligne accessibles, commercialisés bien sûr. On prendra des nouvelles aussi de la gagnante du prix RFI Challenge App, Raissa Banoro, ivoirienne. Ça y est, elle a développé son application Lucie pour alphabétiser des femmes. Elle nous en dira quelques mots. Et puis bien sûr, donc vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Quelques messages postés sur nos réseaux sociaux. Florence et Anjamena au Tchad, elle nous dit que les smartphones sont utilisés comme des ordinateurs à moindre coût d'une certaine façon, plus besoin de se déplacer dans les cybercafés qui sont lents et chers pour naviguer. Broulaï est à Bamako, moi je télécharge surtout des livres en PDF sur mon smartphone, c'est moins cher. La connexion est moins chère aussi par rapport à un ordinateur, pas besoin d'une connexion Wi-Fi et mes recherches portent généralement sur de la littérature. Brice est au Cameroun. Il utilise son smartphone pour travailler sur YouTube. Ça lui permet de comprendre les matières qui lui semblaient auparavant très compliquées. Parfait au Togo, est étudiant en biologie, physiologie. Et avec les amis, ils ont créé un groupe WhatsApp. Et ils nous racontent qu'ils font des exercices en travaux dirigés ensemble. Ils ont des cours en PDF sur le téléphone. Il nous dit qu'il peut les lire évidemment partout où il est, grâce également à son smartphone. Il suit une formation en informatique qui est diffusée directement en ligne à partir d'un autre groupe WhatsApp. Très, très débrouillard, nos voisins sur le continent africain. L'une d'elles nous appelle Ninel au 33 1 84 22 71. 71, elle est à Yaoundé, au Cameroun. Bonjour Ninel.
Bonjour Emmanuel.
Ninel, je voudrais préciser d'emblée ce que vous avez dit à notre standard. Vous êtes paraplégique. Je ne sais pas si vous parvenez à fréquenter l'université. En tout cas, vous êtes tout le temps en ligne pour apprendre. C'est bien cela, Ninel ?
Pas tout le temps, mais du temps en temps quand même.
Vous fréquentez l'université parallèlement ou pas, Ninel ?
Parallèlement, oui, là, je suis en période de rédaction de mémoire, donc je vais plus trop beaucoup à l'école.
Oui. Alors, qu'apprenez-vous ? Sur quoi êtes-vous connecté exactement ?
C'est presque. Déjà, j'apprends l'espagnol sur Moussa Lingua. J'ai l'application en Africa.
Oui.
Et parfois, par les newsletters, ils m'envoient des notifications.
Oui.
J'ai également commencé à prendre la photographie via une plateforme sur Facebook.
Ouais.
Mais bon, pour les problèmes de connectivité, j'ai laissé tomber parce qu'après, ça a renvoyé sur des liens YouTube. C'était pas toujours évident avec la connexion.
C'était trop lent.
Oui, oui. Et puis aussi, j'ai suivi des cours de comment avoir des cours gratuits en ligne.
D'accord.
Où est-ce que vous avez trouvé ça?
Alors, ouais, dites-nous tout, Nivelle.
En fait, c'était un ami qui a une association, l'IFLAC. Ils font des entrepreneuriat social. Le but, c'était de pouvoir vulgariser l'éducation. Alors, on faisait des cours sur comment faire des cours, mais cela se faisait sur WhatsApp. et les MOOC étaient directement donnés, les vidéos étaient directement données sur la plateforme.
D'accord. Et c'est un groupe WhatsApp qui sélectionne, qui cherche sur la toile ces cours gratuits en ligne avec une petite notice critique qui vérifie la qualité ou pas spécialement, c'est à vous après de faire votre choix.
Pour moi, c'était de très bonne qualité parce que oui. j'ai eu le certificat et puis voilà, ça m'a familiarisé avec Audacity, les fun, les MOOC, les EDX et tout.
D'accord. Merci de nous avoir appelé, Ninelle. Et bravo à vous, en tout cas. Hein. N'hésitez pas à nous envoyer des notifications et des infos qu'on pourrait poster sur notre page hein, pour aider les autres voisins. Vous avez l'air d'en savoir beaucoup sur la façon d'accéder notamment à des MOOC gratuits. Merci beaucoup de nous avoir appelé. Très bonne journée à Yaoundé.
Merci, Emmanuel.
Merci à vous, Ninelle. Abdoulaye, un voisin critique est à Nouakchott en Mauritanie. Moi, je pense que tout cela est une forme de colonisation. Les Africains passent tout leur temps à se connecter. Les écoliers ne révisent plus à cause de ces tablettes et téléphones portables. Ils sont devenus tellement paresseux qu'ils ne se servent plus de leur tête. Il n'y a pas que sur le continent africain qu'on entend ce type de critique, non ?
Absolument. Le numérique ne fait pas toujours l'unanimité. Est-ce que ça aide ? Quels sont les freins ? En quoi est-ce que ça les aide ? Et puis en quoi est-ce que parfois ça les détourne de la vraie vie ?
Oui, il a pas tort, hein, Abdoulaye, d'ailleurs.
La question se...
Meilleur et le pire.
Il y a le meilleur et pire, et puis se pose la question de la gestion de leur temps. Comment est-ce qu'ils arrivent à maîtriser leur temps et à choisir ce qu'ils font vraiment sur les écrans ?
Après, moi, je dirais quand même qu'il ne faut pas se tromper d'ennemi. Les apps et toutes ces façons d'apprendre, c'est
les
une
applications,
manière...
ouais.
Voilà, les applications, pardon, c'est une manière aussi de prendre conscience en soi et d'aller vers ce qui nous plaît. Et c'est une façon de prendre la passion et d'apprendre à apprendre. Alors que ce qui compare finalement à cet apprentissage, c'est l'enseignement classique qui est là, c'est l'accumulation de compétences. C'est vraiment très différent.
Alors, il y a beaucoup d'auditeurs qui nous disent on est tout le temps déconcentré. Bon, peut-être une façon très simple, c'est d'enlever les notifications de ces réseaux sociaux quand on est concentré sur son application en train d'apprendre quelque chose, tout bêtement.
Alors c'est vrai que la richesse, c'est que les savoirs sont désormais accessibles à
mais
tous.
Ils arrivent en pluie.
Le frein, c'est qu'ils arrivent en pluie. On parle d'infobésité, de l'information qui nous arrive et qui nous tombe dessus. Et donc les nouvelles compétences, c'est aussi de, pas seulement d'apprendre, mais aussi d'apprendre à apprendre, et de savoir trier cette information.
Mais tout de suite, je vous propose un reportage à Saint-Louis du Sénégal où j'ai rencontré il y a quelques semaines à l'occasion du forum de Saint-Louis, l'entrepreneur Chérif Ndiaye. Il a eu l'idée d'utiliser le matériel technique de sa petite entreprise de communication audiovisuelle pour créer un site gratuit de vidéos écoleausénégal.com pour les élèves de fin d'école primaire et les lycéens de première et terminale.
Ça va, une application pour école au Sénégal. C'est une application, donc école au Sénégal. Si vous avez un téléphone, vous téléchargez et donc il y a plusieurs rubriques. Cours terminal, cours troisième, mathématiques, sciences physiques, philosophie, français.
Donc là, on vient d'ouvrir l'application, hein, Chérif.
Oui. À l'âge d'Internet, l'ignorance est un choix. Aujourd'hui, personne ne peut se permettre de dire que je ne sais pas, parce que tout est sur Internet. École au Sénégal a pour ambition de mettre les meilleurs contenus des professeurs des lycées dans une plateforme en vidéo accessible donc gratuitement par n'importe quel élève. La devise, c'est le numérique au service de l'éducation. Donc, quel que soit ton niveau, les cours sont rangés donc par matière, par classe, mais également par professeur. Parce que le même cours peut être donné par 2-3 professeurs différents parce qu'ils n'ont pas forcément la même approche en termes de pédagogie ou d'angle d'attaque. Ça, c'est un cours de troisième mathématiques, okay, sur les vecteurs.
Alors voilà, ça c'est le cours.
La vidéo
c'est qui
cours.
Le prof là ?
C'est Monsieur Diop.
Il dure combien de temps là le cours de
Qui dure 29 minutes.
29 minutes. Oui. Vous voulez regarder les garçons, ça vous intéresse ?
Oui.
Victor, on l'avait fait. Victor, on l'avait fait, oui, Victor.
Oui, donc là c'est un exercice que le professeur a donné. Et vous voyez l'élève qui est en train donc de corriger.
On regarde la vidéo du cours comme si on était dans la salle de classe.
Comme si on était en classe, on ne perd rien. Pourquoi ? Parce qu'il peut y avoir des élèves qui sont dans des classes nombreuses. On a des classes au Sénégal qui dépassent donc 60 élèves. Comme on peut trouver toute une communauté, donc un village où il n'y a pas d'école, où des fois l'école est présente physiquement, mais il n'y a pas assez de ressources formées pour tenir donc des salles.
Alors, on a accès à école au Sénégal si on est en terminale ou en première pour le moment.
Il y a quelques cours pour les élèves de primaire de CM2, donc mathématiques, pour le collège, donc les classes de 3e, toujours mathématiques et SVT, donc les sciences de la vie et de la terre. Cependant, il y a un fort lot pour les élèves de terminale, notamment les terminales scientifiques. Donc il y a tout le contenu, mathématiques terminales S1, S2, sciences physiques, SVT et plus les cours donc d'histoire, géographie et de philosophie.
Donc avec des profs, des enseignants de l'éducation nationale sénégalaise qui sont rémunérés par votre association.
Absolument. Pour nous assurer de la qualité et de la conformité du contenu qu'on met en ligne, parce que ça donne une garantie, et on l'utilise, nous, avec une rémunération ou, disons, un intéressement. Parce qu'on ne peut pas acheter le savoir. Ces gens-là sont d'une générosité extraordinaire.
Ils sont motivés, les enseignants, pour être filmés, refaire leurs cours.
Aujourd'hui, ils sont hyper motivés parce que École au Sénégal fait de quasiment des personnalités publiques, des gens connus.
Il y a un prof de maths qui est particulièrement star sur la plateforme.
Monsieur Touré.
50 000 connexions par mois, c'est ça?
50 000 par mois. Et du coup, ce professeur-là a décidé de ne plus être intéressé donc, financièrement. Tout simplement, il a vu l'impact. Et aujourd'hui, le modèle économique d'École au Sénégal est en train donc, de changer. On va arriver à un moment où c'est aux professeurs de nous payer pour être sur la plateforme. Donc vous voyez, c'est carrément le scénario.
Ça revalorise aussi la condition d'enseignant quelque part aussi.
Je vais vous donner juste un exemple. Un enseignant qui était fermé dans une salle de classe avec 40-50 élèves, aujourd'hui on lui donne la possibilité d'être vu par des milliers de personnes en un temps record. Et ça règle un problème. Je prends le cas du Sénégal qui met 400 milliards en termes d'investissement par an sur l'éducation. Certains me diront que c'est un gros montant, mais sachez que 80% des ressources mises à disposition de l'école vont à la rémunération donc, des enseignants et du corps administratif. Il n'y a que 20% qui part donc, à la construction des salles, aux achats de manuels et autres. Et donc, École au Sénégal devient une réponse.
Comment vous faites pour qu'il y ait un échange ensuite entre le prof et les élèves qui n'ont pas compris, qui veulent un complément d'information?
Pour l'instant, effectivement, les échanges ne peuvent se faire que par YouTube. Donc, un commentaire que tu mets et derrière, le professeur réagit ou bien quelqu'un de la communauté qui semble comprendre mieux la leçon que toi peut réagir. Vous voyez donc cet échange et cette générosité qu'une classe normale ne peut pas donner. Parce que des fois, le professeur ou le maître détenteur du savoir n'est pas forcément accessible. Ou bien l'élève peut être gêné parce qu'il ne comprend pas. Le fait d'être gêné ou de ne pas être considéré comme l'idiot de la classe, tu te dis « Ok, moi j'ai une plateforme qui me permet donc de réviser à ma guise, à mon rythme, mais également autant de fois que je veux donc pour comprendre la leçon. » Au-delà des leçons, il y a également des exercices et des corrections que je pense être également pertinents de la même manière que le cours.
Pour l'instant, tous les cours sont en français ou en wolof?
Pour le primaire, quelques cours de mathématiques qui sont en wolof. Et bientôt, des cours en polar également et en CRR. Aujourd'hui, il y a énormément de maçons et de menuisiers qu'on appelle analphabètes, qui ne sont pas partis à l'école. Ils font tous les jours des angles droits. Si aujourd'hui on les explique ce que c'est que l'angle droit en langue locale, ils vont le comprendre. Et donc, École au Sénégal, les mathématiques, on va les traduire de manière imagée pour leur dire, vous les utilisez tous les jours dans vos métiers et c'est important qu'ils puissent donc les comprendre.
7 milliards de voisins, c'est maintenant.
Voilà, il faut savoir que donc École au Sénégal est à retrouver sur YouTube. On a fabriqué aussi une vidéo pour vous expliquer comment ça fonctionne sur notre page Facebook et sur le site RFI.fr à la page des 7 milliards de voisins. Et on a plus de 40% des jeunes qui se connectent en période d'examen qui sont aussi à l'extérieur du Sénégal, au Maroc, même en France d'ailleurs, parce que par exemple pour les cours de maths, le niveau en maths est plus élevé au Sénégal. Arnaud Portanelli, qu'est-ce que ça vous inspire?
Écoutez, sans vouloir te faire de concurrence à ce qu'on vient d'entendre, moi ça m'inspire qu'en France on a une démarche similaire qui a été faite il y a peu de temps par Opcalia, qui est un OPCA qui a lancé une app qui s'appelle...
Un OPCA, on va peut-être décoder.
Oui, bien sûr. C'est un OPCA, c'est un organisme paritaire collecteur, c'est encore plus compliqué, ça veut dire qu'en gros ce sont des gens qui collectent des fonds qui après, ils utilisent ces fonds pour accompagner des salariés, des demandeurs d'emploi vers la formation. D'accord. Donc le but souvent, c'est d'accompagner les gens à trouver un emploi et à acquérir les compétences de base dont il parlait lui, la personne qui est intervenue à travers justement c'est la formation de ces ouvriers peu qualifiés pour leur apprendre à comprendre ce qu'ils font, apprendre à faire les mathématiques. Ben il y a la même démarche en ce moment en France et c'est un bon plan pour eux parce que c'est gratuit. Ça s'appelle 1001 lettres. C'est une application qui se télécharge et qui va leur permettre de revoir un peu les mathématiques, les compétences, l'orthographe, l'écriture.
Mais appliqué à des métiers ensuite beaucoup plus pratiques.
Oui, et puis c'est surtout, ça peut s'appliquer après les maths forcément partout. Mmh. Mais c'est surtout une belle manière de réapprendre à apprendre.
Déborah Elalouf.
On a aussi dans le domaine du numérique un réseau qui s'est créé ces dernières années, la grande école du numérique avec des formations gratuites et qui ont bien sûr des cours en physique mais aussi tout un tas de nouvelles initiatives pour former les jeunes et les moins jeunes aux compétences de base qui leur permettront d'avoir un métier derrière.
Alors évidemment Arnaud Portanelli, l'apprentissage via des écrans c'est très adapté à ce que vous faites de vous, c'est-à-dire l'apprentissage des langues finalement, pas forcément à toutes les matières.
Bah, ce qu'il y a, c'est qu'en fait, on parle souvent de ce qu'on appelle en ce moment les soft skills, qui sont vachement à la mode aux États-Unis, ce sont les business skills. Et ce qui vient en premier, c'est vrai que c'est échanger. Et donc forcément, on échange dans quelle langue, il en a parlé encore une fois, dans quelle langue on apprend. Et puis, si on a envie d'aller chercher un travail à l'étranger, quelles sont les compétences qu'on va juger la première fois, c'est la compétence linguistique. Et donc du coup, partout dans l'Internet, ce qui marche bien, effectivement, c'est les applications linguistiques. Elle a cité tout à l'heure Mosalingua, il y a aussi Babel, il y a aussi Bouzou, il y en a énormément qui sont gratuites et qui après ont un modèle qu'on appelle les modèles freemium, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si on le souhaite, on peut payer pour en avoir plus.
C'est ça, bon, gratuitement, c'est facile d'avoir accès à des listes de vocabulaire, voilà. Par exemple, des petits jeux pour vérifier
exactement.
Sa prononciation.
Voilà, c'est super. Le défaut, pardon, excusez-moi, c'est l'auto-formation, c'est comment on fait pour se motiver dans le temps, c'est un peu comme un régime, souvent, il y a peu l'effet boomerang qui fait qu'on arrête et après on se démotive.
Et je compléterai aussi par l'évaluation. C'est-à-dire la possibilité de savoir où on en est, de savoir où on doit aller, qui est l'une des forces des applications numériques.
Ouais. Arnaud Portanelli, vous, finalement, c'est de l'apprentissage des langues via de la conversation à distance, mais ça reste finalement assez classique.
Ah bah complètement. Complètement. Nous, notre service, c'est des cours particuliers. Avec un prof. En plus, nous, on a vraiment décidé d'être radicalement dans le classique, puisqu'en fait, il est certifié pour enseigner sa langue maternelle, il a des diplômes pour ça, il a de l'expérience. C'est un peu l'école, c'est la partie la plus one-to-one, enfin, un élève, un prof, ça n'a rien d'extraordinaire. Là où c'est innovant, c'est qu'effectivement, ce formateur est disponible H24, tous les jours, même le week-end, et qu'on peut forcément apprendre de manière rapide.
Et ça, c'est vraiment la particularité de l'enseignement en ligne aujourd'hui, justement. Qui plus est quand on l'a au creux de la main dans un smartphone.
Alors ça peut être aussi de créer une expérience en plus, une expérience gamifiée, le fait de motiver et d'engager l'utilisateur dans une expérience d'apprentissage. Et ça peut être aussi, vous mentionniez la collaboration, le fait d'apprendre à plusieurs, qui peut se faire par une communication simple et qui peut se faire aussi dans le cadre des commons dans le numérique. On crée à plusieurs des documents, on peut créer à plusieurs des résultats et c'est aussi une manière d'apprendre.
Qu'est-ce qu'on observe sur les petits-enfants, vous qui travaillez à produire des choses, des apprentissages pour les enfants?
La première chose qu'on observe, c'est que évidemment le numérique est une voie centrale d'acquisition à la fois de connaissances et de compétences, donc à la fois pour apprendre à lire, améliorer ses puissances de calcul, mais aussi pour développer les soft skills, effectivement, les nouvelles formes de compétences pour les enfants, c'est un levier formidable. Et on observe tout un nouveau, de nouvelles types d'actions, notamment le fait d'aider les enfants à produire, à ne pas être de simples consommateurs de numérique, mais à créer leur propre support.
Justement, on va en parler. Vous restez avec nous juste après le flash. On sera dans la Silicon Valley aux États-Unis avec Olivier Sinson du groupe Udemy, un des leaders mondiaux des cours en ligne. Et bien sûr, les voisins, vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Nous revenons dans un tout petit peu plus de 3 minutes, juste après le flash. Restez avec nous, apprendre avec les écrans.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez sur RFI. Nous parlons d'éducation comme chaque vendredi. D'ailleurs, en fin d'émission, on aura la chronique de Marie-Rose Moreau, pédopsychiatre, qui donne des conseils aux parents. Faut-il parler de son parcours migratoire à ses enfants? Ça sera pour la fin d'émission. Pour le moment, on est dans notre débat. Peut-on désormais apprendre avec les écrans, une tablette, un smartphone? 40% des collégiens, des lycéens utilisent leur smartphone comme support de révision. Ça semble énorme. 73% des élèves utilisent régulièrement Internet pour leurs devoirs, pour leurs révisions. 12% disent ne plus pouvoir s'en passer. Ça ne vous surprend pas d'ailleurs, Arnaud Portanelli, non? Fondateur de Lingueo, apprentissage des langues.
Absolument pas. Moi, je fais tout pour éviter que mes filles qui ont 3 ans ne soient pas complètement dépendantes. Et j'en suis bien conscient. Et il y a des petites startups qui travaillent là-dessus d'ailleurs déjà. Hein. Des Apidou notamment, qui ont développé un petit doudou intelligent qui essaie de remplacer justement cette dépendance au téléphone pour l'amener vers le doudou.
Ouais. Déborah Elalouf, vous êtes fondatrice de Tralalaire. Justement, vous élaborez des produits d'apprentissage pour les enfants avec tous les risques que cela comporte. Mais vous dites aujourd'hui, de toute façon, c'est aussi une extraordinaire manière de satisfaire la curiosité des enfants qui ont déjà cette connaissance intuitive. Encore faut-il qu'elle soit utilisée à bon escient.
Oui, il faut les accompagner pour ça. Les enfants passent effectivement beaucoup de temps chaque jour. Et vous mentionniez des solutions qui existent pour accompagner les adultes dans l'accompagnement des enfants. Il y a aussi des campagnes de sensibilisation. Le Safer Internet Day qui arrive bientôt le 6 février, qui lance tout un tas d'ateliers et d'initiatives qui ont lieu partout dans le monde pour justement accompagner les parents et les enfants dans l'usage du numérique des enfants.
Alors, nous sommes en ligne avec un Français qui est dans la Silicon Valley aux États-Unis. Bonjour Olivier Sanson.
Bonjour, bonjour à tous.
Vous êtes responsable France du groupe Udemy qui commercialise des cours en ligne, un des leaders mondiaux dans ce secteur. Vous êtes à San Francisco, merci d'être en ligne avec nous d'abord parce qu'il est 2h30 du matin chez vous, c'est bien ça?
C'est ça. C'est
d'accord.
Ça.
Mais alors, bon, vous n'avez pas de chance, vous travaillez avec la zone francophone et votre groupe.
Exactement.
Il faut le préciser, c'est vraiment le supermarché de l'apprentissage en ligne, 40 000 cours en ligne. On y trouve absolument de tout, des cours de maths comme de la méditation.
On y trouve de tout, effectivement. On a même 65 000 cours maintenant. Et on est une place de marché de cours en ligne.
Ça grossit très vite. À l'heure actuelle, quelle est la plus grosse demande? Alors, c'est essentiellement de l'anglais, mais on va parler justement de l'apprentissage en langue française qui prend de l'importance dans votre groupe. Mais quelle est la plus grosse demande d'apprentissage sur le marché mondial de l'apprentissage en ligne à l'heure actuelle?
Aujourd'hui, c'est surtout l'informatique. Tout ce qui va toucher à la programmation, au développement informatique, apprendre à développer des sites web, des applications mobiles, des jeux vidéo et tous les langages de programmation. Aujourd'hui, là-dessus, il y a énormément de demandes. Il y en a aussi énormément en ce moment sur tout ce qui touche à la data. On parle beaucoup de data science, oui. De machine learning, d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens dans le monde entier qui veulent se former à ces nouvelles technologies. Mais vous l'avez dit, on peut aussi apprendre le yoga, la méditation, la guitare, le dessin. Énormément de Français qui veulent apprendre à dessiner. Et les cours de dessin marchent très bien auprès des Français en ce moment.
Ouais, ça vous a surpris?
Un petit peu.
Oui.
Un petit peu parce que sur ces dernières semaines, on a un cours de dessin qui a été fait par un Français. Qui marche très très bien.
Quand vous dites qui marche très bien, ça veut dire quoi? Combien?
Ça veut dire qu'on a plusieurs centaines de nouveaux étudiants chaque jour qui, sur Udemy, suivent ce cours qui fait plusieurs dizaines d'heures et qui vous apprend toutes les bases du dessin. Voilà. Mais aujourd'hui, le best-seller sur le marché français, ça reste un cours de développement informatique qui vous apprend toutes les bases pour
devenir développeur, commencer une carrière de développeur.
Pour devenir développeur voilà, et de faire vos sites internet par tout seul.
Est-ce que vous savez à l'heure actuelle sur quel support vos usagers, vos clients utilisent ces cours en ligne?
Alors souvent, ils vont commencer sur l'ordinateur, mais ils vont pouvoir, au fur et à mesure de la progression dans le cours, passer sur la tablette ou passer sur leur téléphone. Parce qu'ils sont dans les transports, parce qu'ils veulent pouvoir télécharger le cours et le suivre à un endroit où il n'y a pas forcément une connexion Internet. Et donc, ils vont changer de support en fonction de l'usage qu'ils vont avoir du cours.
Vous vous développez en ce moment en langue française. Vous regardez vers la France ou vers le gigantesque marché africain ?
Les deux, forcément.
Vous regardez vers les 270 millions de francophones, quoi, en gros,
exactement,
qui sont principalement en Afrique.
C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, de toute façon, aujourd'hui, il y a 65 000 cours sur Udemy. Il y a des cours dans plus de 50 langues. Donc, vous pouvez être partout dans le monde et apprendre dans la langue qui vous est la plus familière, ou en tout cas dans celle que vous avez envie d'apprendre, le français quand c'est plus évident pour vous. Après, c'est aussi une question d'offre. Mmh. Aujourd'hui, la plupart de nos cours sont encore en anglais. Donc forcément, les gens apprennent un peu plus en anglais aujourd'hui, mais on développe cette partie-là en incitant des formateurs francophones à créer des cours en français sur Udemy.
Quand vous recrutez, d'ailleurs c'est pas le mot recruter, parce qu'un formateur, vous le disiez, vous êtes une plateforme en ligne, donc finalement vous êtes une place de marché, ça veut dire qu'un excellent formateur qui a un excellent cours en langue française, vous prenez une commission, c'est ça, sur l'argent que rapporte ce cours ?
Exactement, on va partager le revenu généré par le cours avec le formateur.
Ah oui, 50-50. D'accord. Qu'est-ce qu'il faut qu'est-ce qu'il faut pour faire pour être un très bon formateur, quelle que soit la langue d'ailleurs, en ligne, par rapport au fait d'enseigner de manière classique ?
Je pense que la première chose, c'est qu'il faut forcément l'expertise sur le sujet dans lequel vous voulez enseigner. Mais ça ne suffit pas. Il faut souvent, ce sont des passionnés qui ont en plus la pédagogie. Et puis après, il faut un minimum de matériel pour avoir, par exemple, le son, l'audio est hyper important quand on veut faire un cours de qualité, et parfois la vidéo quand le cours demande à être filmé.
Et quel contrôle vous exercez sur les contenus, sur la qualité des cours ? Vous ne pouvez pas être spécialiste de tout ?
Effectivement, nous on va contrôler la qualité sur la forme essentiellement, la qualité audio, vidéo, la longueur du cours, la qualité des vidéos en termes de définition. Ensuite, ce sont les utilisateurs qui vont juger du contenu du cours et de la qualité de la formation et du formateur en laissant une note et un commentaire. Et ça permet de faire ressortir du lot les meilleurs cours et les meilleurs formateurs. Voilà, on a certains formateurs stars.
Justement, j'allais vous poser une question pour les auditeurs qui nous écoutent et qui souvent se demandent comment bien choisir un cours en ligne payant, parce que ce soit d'ailleurs une application ou un cours en ligne. Enfin, comment est-ce qu'on regarde le nombre d'utilisateurs, le nombre de téléchargements ? Est-ce qu'on se renseigne dans les forums ou est-ce qu'il y a d'autres moyens ?
En tout cas, sur Udemy, vous allez pouvoir voir un certain nombre de vidéos gratuitement avant de vraiment acheter le cours. Vous allez pouvoir voir une note qui a été laissée par les étudiants précédents, les commentaires. Et en plus, sur Udemy, vous avez 30 jours pour vous faire rembourser. Donc, vous pouvez prendre le cours, regarder si ça vous convient, si vous apprenez vraiment et si le style du formateur vous convient. Si ça ne vous convient pas, vous pouvez vous faire rembourser et en prendre un autre. Et on va vous proposer un maximum de cours qui pourraient vous satisfaire.
Alors, dans le domaine de l'éducation, c'est vrai que le fait de trouver la bonne ressource, c'est le défi qu'ont à la fois les parents, les éducateurs pour ça. Et il y a plein de blogs d'éléments qui sont auto-organisés par les communautés, avec des profs qui ont recensé les applications qui leur semblaient intéressantes. Même chose, des groupes de parents qui le font aussi.
Par secteur, par matière en général.
Par secteur, par matière ou par âge.
Merci à vous Olivier Saint-Son d'avoir été en ligne avec nous. Vous êtes le responsable France du groupe Udemy. Merci beaucoup et bonne nuit à San Francisco.
Merci Olivier, bonne nuit.
Merci, à bientôt.
Merci. Vous écoutez RFI, il est 11h42, heure de Paris, et vous pouvez nous appeler au 33 1 84 22 71 71. On donne la parole très rapidement à un auditeur, Lamine, qui veut d'ailleurs soulever un problème intéressant. Bonjour Lamine, vous êtes à Dakar.
Oui, bonjour.
Vous avez 21 ans, Lamine, et vous vous posez des questions sur... Je crois que vous avez une assez grosse pratique d'apprentissage sur Internet.
Oui, c'est cela.
Allez-y, on vous écoute, Lamine.
Bah alors, moi actuellement je suis à la base étudiant en médecine, mais ça ne m'empêche pas de suivre des cours en maths médicales vu que ça m'intéresse vraiment l'objectif du numérique. Donc par ce fait, j'ai pu suivre des cours sur Google Digital Active, essentiellement sur Uno aussi, essentiellement aussi sur FunMook.
Oui.
Mais actuellement, le principal souci, c'est...
Donc vous suivez surtout des formations en business, si j'ai bien compris, c'est ça ?
Oui, c'est ça, en marketing digital.
D'accord, marketing digital, oui. Alors que vous êtes étudiant en médecine, c'est intéressant, oui.
Oui, qu'à la base, voilà, je suis étudiant en médecine, donc bon, dans mon temps libre, bon, j'aime faire des choses qui sont différentes de ce que j'apprends à l'université. Voilà, les MOOC qu'on me propose, c'est assez interactif, donc c'est attrayant, donc ça me plaît de suivre ces cours-là.
Et vous rencontrez une difficulté, hein, notamment concernant les certifications?
Ben oui, bien sûr, parce que par exemple, sur Uno, j'avais déjà validé ma formation sur le marketing digital, essentiellement sur la gestion de projet, et on devrait choisir la date où on devrait faire l'examen final pour obtenir la certification. Mais voilà, le truc, c'est que ça c'est un problème, mais l'autre problème, c'est qu'il faut venir en France pour passer le test d'admission.
Alors, ceci dit, oui, il y a quand même beaucoup aujourd'hui de formations en ligne où on peut obtenir un certificat sans bouger, non ?
Alors, c'est un énorme enjeu, la certification en ligne. C'est vrai que le fait de marquer cette étape dans la formation, il y a des évolutions à la fois législatives et à la fois en termes d'usage, où aujourd'hui, il y a de plus en plus de solutions qui permettent effectivement de faire de la certification et de délivrer du diplôme en ligne de manière complètement autonome, donc de passer son diplôme chez soi à 11h du soir.
Mais ouais. C'est tout à fait naissant, hein, la certification ouverte à distance, donc l'avenir de la formation ouverte à distance, c'est vraiment ça a moins d'un an.
Ouais, que donc il va falloir patienter un petit peu, hein, Lamine, je pense. Et puis surtout, bon, de toute façon, il faut débourser de l'argent là, à ce moment-là. Hein, si on a
alors,
jusqu'à maintenant.
Il y a effectivement déjà un certain nombre de services qui le proposent, mais effectivement, c'est l'étape payante. C'est-à-dire que même quand les plateformes proposent dans leur modèle des cours gratuits, en général, l'étape de certification, c'est l'étape où il faut sortir son porte-monnaie.
Aux États-Unis, 20% des diplômes se passent à distance, hein, quand même, je tiens à le préciser.
Merci de nous avoir appelé, Lamine. Et bravo pour cette curiosité. Bon, je pense que vous avez une idée derrière la tête. Vous allez monter un petit business médical, c'est ça ? Avec du marketing digital indispensable ?
Oui, je laisse faire bien.
D'accord, vous nous tenez au courant. Merci de nous avoir appelé de Dakar. Passez une très bonne journée. Nous sommes en ligne avec Raïssa Banoro maintenant. Bonjour Raïssa.
Bonjour Emmanuel.
Raïssa Banoro, je pense qu'une partie des auditeurs vous connaissent parce que vous êtes la gagnante du concours RFI Challenge App en octobre dernier pour votre application Lucie qui permet d'alphabétiser des femmes via un smartphone. Vous avez été élue par un jury parmi 600 dossiers reçus. Alors l'application Lucie aujourd'hui a démarré, c'est bien cela Raïssa ?
Oui, oui. L'application a bien démarré. Nous sommes en phase de développement d'une version que nous allons mettre sur App Store. Et nous avons déjà commencé la version terrain.
D'accord. Comment ça se passe comment est reçue l'application par des femmes qui n'ont pas fréquenté les bancs, comme on dit chez vous?
Déjà, elles sont déjà étonnées à chaque fois qu'on leur propose l'application.
Ouais.
Elles se demandent comment elles déjà ne savent pas lire, mais comment elles pourront apprendre à partir de leur smartphone.
Oui.
Donc, nous sommes obligés de leur rappeler que, en fait, l'application contient un assistant vocal.
Oui.
Qui va les guider tout au long de leur apprentissage.
Oui.
Donc, c'est à partir de ce moment-là qu'elles comprennent que dans leur téléphone, il y a une personne qui va les guider.
Oui.
Donc, elles deviennent un peu plus coopératives, en fait.
Oui. Et ensuite, qu'est-ce qui vous étonne, là, avec les premiers tests et la mise en service de l'application?
Déjà, c'est la capacité à pouvoir faire les évaluations. Parce qu'au départ, quand on avait lancé l'application, les premières femmes avaient du mal à un certain moment de faire certains exercices. Et on s'est rendu compte qu'au fur et à mesure qu'elles évoluaient, elles avaient la capacité de pouvoir utiliser d'autres applications de leur smartphone.
C'est ça, elle voit directement en fait le bénéfice au fur et à mesure qu'elles progressent dans leur capacité à lire et à écrire.
À lire et à écrire. et à mieux gérer leur environnement.
C'est ça, c'est ça. Et, ouais. Et donc à mieux se débrouiller avec un smartphone.
Oui.
Là, alors pour le moment, donc cette application, elle est. Vous avez déjà des chiffres à nous communiquer?
Pas tellement, parce que là, actuellement, nous sommes en train de développer une version que nous allons mettre en ligne.
Oui.
Qui sera beaucoup plus universelle.
Oui.
Voilà. Parce que, en fait, la version en ligne, c'est vraiment pour les personnes qui ont leurs proches non alphabétisés. Ça fonctionnera par un système de parrainage. Donc, du coup, les personnes alphabétisées pourront télécharger l'application pour leurs proches.
D'accord.
Donc, voilà.
Raïssa, vous êtes toujours aussi enthousiaste que quand vous avez reçu le prix?
Oh oui, là, à fond.
Vous êtes de passage à Dakar, vous êtes ivoirienne, pourquoi?
Oh oui, je suis là en formation. Ah. Je compose là aujourd'hui en management et business.
Oui.
Donc du coup, je suis à Dakar pour une formation que j'ai suivie en ligne.
D'accord, ok. Ah, très bien. D'accord, merci beaucoup Raïssa Badoro, gagnante du concours RFI Challenge App en octobre dernier pour cette application Lucie, donc à retrouver sur Internet. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut en tant qu'usager? Je vous pose la question à Arnaud Portanelli et Déborah Elalouf pour ne pas abandonner quand on se lance dans un apprentissage, qui plus est d'ailleurs sur des écrans de plus en plus petit finalement, Déborah Elalouf.
Alors, il y a plusieurs clés qui permettent de garder l'apprenant en ligne. L'un des éléments, c'est d'avoir des éléments de motivation qui font partie de l'application elle-même et qui font que c'est ludique et que l'apprentissage est... L'autre élément, c'est la capacité à mesurer ses résultats. C'est ce qu'on voit dans l'expérience juste avant. C'est si j'arrive à voir où j'en suis et si j'arrive à voir que je progresse, eh ben, de fait, je suis beaucoup plus stimulée.
Exactement ce que nous disait Raïssa, c'est ça. Hein,
absolument.
C'est-à-dire des femmes qui sont vendeuses sur le marché et qui voient au fil des jours qu'elles progressent, elles utilisent beaucoup plus facilement leur smartphone parce qu'elles lisent mieux, elles comprennent mieux ce qu'elles lisent et elles peuvent elles-mêmes envoyer des messages.
Et parce qu'elles envoient le résultat finalement à très court terme par micro-étapes comme dans les mécaniques de jeu.
Ouais. Et pour voir Arnaud Portanelli?
Vraiment le même procédé, je suis complètement d'accord. Et après, juste pour aller un tout petit peu plus loin, je pense que c'est cette micro-étape qu'on va devoir certifier, c'est-à-dire comment on prouve la compétence de l'individu. Selon moi, le CV du futur, c'est plus du tout la connaissance et l'école et les diplômes, mais plutôt les compétences. Vous voyez, quand vous regardez votre LinkedIn, tout en bas, il y a des petites compétences qui sont accumulées. Je pense que ça, c'est ce qui va permettre aux recruteurs et qui va intéresser le recruteur de plus en plus. Et donc, du coup, cette notion qui est à travers le MOOC, à travers les apps, comment on va dire que cette personne a acquis la compétence et comment on le certifie que c'est la même compétence qu'un autre individu? C'est là qu'on fera la réussite des MOOC, parce que les MOOC, on sait bien, ils sont très critiqués à cause de cette problème de complétude.
Mais alors là, on parle des MOOC, mais ceci dit, depuis le début de l'émission, on a bien sûr inclus les applications, les sites internet quels qu'ils soient, enfin toutes les façons d'apprendre en ligne. C'est bien plus large que les MOOC, hein, parce que les MOOC, ce sont des produits qui sont très sophistiqués quand même.
Oui, ça inclut d'un côté des applications qui peuvent être très basiques. D'ailleurs, sur les langues, il y a aussi tout un tas de petites applications qui démarrent pour les des plus jeunes jusqu'au plus grands. Il y a effectivement des sites internet très variés qui peuvent être consultés sur ordinateur, tablette ou smartphone, et qui peuvent être déployés dans des contextes très variés, qui vont de la formation de type MOOC, du jeu éducatif à la maison ou en totale autonomie, aux applications à l'école ou avec un éducateur pour apprendre.
Arnaud Portanelli, encore quelques conseils peut-être pour mieux s'orienter, parce qu'il y a tellement d'offres entre le payant, le gratuit. Comment s'y retrouver finalement?
Aucune idée.
C'est-à-dire
non, je plaisante.
Sur les langues, vous êtes sur le marché des langues, c'est énorme.
Non, c'est clair. Non, mais franchement, je vais pas mentir, c'est le problème de l'Internet. Voilà. C'est que c'est absolument gigantesque. Donc vous allez trouver absolument à boire, à manger, des payants, du gratuit, c'est colossal. Moi, je pense que justement les Africains, de manière générale, ont une richesse du fait justement d'avoir envie de découvrir, d'aller vers l'autre, qui fait que ils échangent les bons plans entre eux, ils vont partout sur les réseaux sociaux, ils communiquent. Je pense que c'est le meilleur moyen de filtrer ce qui est
et
bon
surtout,
et ce qui n'est pas bon.
Voilà. Et puis avant de dépenser de l'argent, voilà. Surtout demander à tester et à pouvoir abandonner.
Bien sûr, on le fait chez nous, mais tout le monde devrait le faire.
Un téléchargement ou un abonnement.
Je crois qu'il y a deux éléments, effectivement. Un, le fait de voir et de tester. Deux, le fait d'avoir des relais de communication en ligne. et d'apprendre à chercher.
Merci à tous les deux. Arnaud Portanelli du site Lingueo, Déborah Lalou, fondatrice de Tralalaire. Dans quelques instants, on retrouve Marie-Rose Moreau chez 7 milliards de voisins.
On est plus le fils de son époque que le fils de son père.
Parents, enfants, d'ici et d'ailleurs.
Un nouveau rendez-vous chaque vendredi chez 7 milliards de voisins avec la pédopsychiatre Marie-Rose Moreau. Bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Un rendez-vous pour aider les parents qui exercent ce métier impossible de parents. Vous réfléchissez beaucoup, Marie-Rose, aux évolutions de la famille, au métissage, notamment avec la revue L'Autre qui est disponible sur Internet. Deuxième chronique, faut-il raconter son histoire migratoire à ses enfants? Et si oui, pourquoi donc?
C'est une question fondamentale. Lorsqu'on a quitté sa région, son pays, lorsqu'on a changé de langue, parfois qu'on a changé de métier, etc., dans des conditions qui ne sont pas toujours faciles, c'est très important de raconter cela aux enfants. Régulièrement, j'allais dire comme une histoire, ou au cours d'une fête, au cours d'un échange familial, il faut raconter en s'adaptant à l'âge. C'est-à-dire, on ne raconte pas pareil à un tout petit à qui on dit, ben voilà, moi je ne suis pas née dans le même endroit que toi, ou à un adolescent à qui on donne des éléments politiques, par exemple. Mais raconter d'où on vient, c'est extrêmement important pour que les enfants puissent se représenter avec dignité, fierté, qui ils sont, et qu'ils puissent, au fond, se rattacher aux autres par le fait qu'eux aussi ont une histoire, une belle histoire, une grande histoire.
Mais on se pose toujours la question, est-ce que ça ne nuit pas aux enfants à leur intégration dans un autre pays ou une autre culture?
Au contraire, plus on est enraciné, plus on est tranquille, plus on est fier de ses parents, de l'histoire de ses parents, de l'histoire de sa famille, plus on est profondément inscrit. Les psys parlent parfois de filiation pour dire quelque chose qui est comme une sorte d'arbre qui prend ses racines très profondément et qui fait qu'ensuite les branches, elles peuvent s'étendre, elles peuvent pousser partout. Et donc oui, c'est extrêmement important, mais c'est important.
Mais pas n'importe
pour le passé,
comment.
Oui. Pour le futur.
Pour le futur, bien sûr. Et comment le faire?
On ne les raconte pas tout seul, on les raconte avec d'autres. On les raconte aussi dans sa langue maternelle. C'est très important, si l'enfant comprend la langue maternelle, de pouvoir le faire dans sa langue maternelle, avec les autres autour de soi, dans des moments qui vont être dédiés à cela. Et pas lorsqu'on est en colère, pas lorsque l'enfant ne se comporte pas comme se comporterait un enfant au pays, ou lorsque on veut le gronder. Il faut que ce soit, au contraire, dans un exercice où on va pouvoir dire à sa façon comment on a fait ce chemin et qu'est-ce que cela implique pour l'enfant. Et il faut que chacun puisse le raconter, le père, la mère, l'oncle, la tante, l'ami qui a migré.
Ça devient une mythologie familiale et presque, oui. Hein, avec autant de versions que de membres de la famille.
Y compris si on n'est pas tout à fait d'accord. Ce qui importe, c'est la sincérité et la beauté
du discours. Vous pensez à une histoire en particulier, à des enfants que vous avez vus passer
Alors, je pense à l'histoire de Ritan. Ritan, c'est un garçon à qui les parents viennent du Sri Lanka et les parents ont dû fuir le Sri Lanka. Ils étaient étudiants syndicalistes et donc au moment de la guerre, ils ont dû se sauver. Et ici, ils se sont mariés et ils ont Ritan qui est né ici. Mais ils avaient vécu des choses tellement difficiles qu'ils ne savaient pas comment parler à cet enfant de cette histoire. Et un jour, Ritan, il dessinait un paysage et dans le paysage, il a dessiné un balai, mais un balai qui ne ressemble pas au balai français. J'avais cru que c'était un balai de sorcière. Et la maman dit non, ce n'est Ritan à 8 ans. Ce n'est pas un balai de sorcière, madame. C'est un balai comme au Sri Lanka. Et je suis émerveillée. Mon fils sait comment sont les balais au Sri Lanka. Et là, le fait que son fils, en dessinant ce balai, l'invite finalement à raconter l'histoire en ma présence et aussi pour me la raconter à moi, elle a raconté l'histoire de ce couple de syndicalistes, des efforts, de la manière dont ils se sont sauvés, de la manière dont ils ont fait un pacte pour pouvoir ensuite vivre ici. Et le soir, en rentrant chez lui, Ritan a dit à son père, « Papa, tu es un aventurier. » Et son père, ému aux larmes, a compris qu'enfin son fils avait trouvé finalement sa manière de savoir l'histoire migratoire.
Donc il faut bien raconter l'histoire migratoire de soi-même, de ses parents, à ses enfants, même si ce sont de mauvais souvenirs.
Même si ce sont de mauvais souvenirs, parce que c'est mieux qu'un médicament, quoi. C'est quelque chose qui vous donne de la force et qui vous permet ensuite de continuer le chemin de vos parents.
Oui. Parce que bien sûr, on va raconter aussi tous les obstacles qu'on a franchis et quelque part, on devient aussi un héros vis-à-vis de ses enfants.
Du courage, de la dignité, Ritane avait raison. En plus, les migrants, c'est des aventuriers des temps modernes.
Merci Marie-Rose Moreau. On se retrouve pour une prochaine chronique. Parents, enfants d'ici et d'ailleurs. Marie-Rose Moreau, vous avez aussi publié « Grandir en situation transculturelle, des enfants qui appartiennent à plusieurs mondes ». Tout est noté bien sûr sur la page 7 milliards de voisins du site RFI.fr. Et n'oubliez pas que vous pouvez aussi réécouter toutes nos émissions sur l'appli RFI Pure Radio à la rubrique des magazines ou nous retrouver sur Facebook, sur Twitter et bien sûr aussi sur Instagram. Merci à toute l'équipe, Cécile Lavolo, Sophia Béda, Romain Dubrac, Raphaël Lazizi. 7 milliards de voisins, on se retrouve lundi. Nous parlerons des prisons, grave crise en France avec une grève massive des surveillants de prison et ailleurs dans le monde. Où en est-on ? L'occasion pour vous les voisins de vous exprimer sur l'état des prisons chez vous. Vous pouvez nous contacter d'ailleurs dès maintenant au 33 1 84 22 71 71 ou en nous écrivant aussi sur notre adresse mail 7milliards@rfi.fr et les messages privés sur notre page Facebook. À lundi, très bonne fin de semaine à vous tous les voisins et les voisines.